Bienvenue dans la zone payante, une autre grosse semaine d'activité sur la planète football. Évidemment, les grosses nouvelles dans la Ligue canadienne de football, plus spécialement à Montréal, ça a brassé sur les Alouettes, on va y revenir dans quelques instants. Deuxième semaine d'activité également dans la NFL, on a commencé à avoir beaucoup de partants, à avoir des répétitions assez sérieuses. Vraiment, on approche de la saison de la NFL et c'est ça.
C'est ça.
Et aussi, aujourd'hui...
On parlait du football universitaire aussi,
football Charles. Universitaire, ça fait quelques semaines qu'on vous en parle. Là, on a eu droit au premier match hors concours. On a pu voir un peu là, où se tenaient les différentes équipes. On va faire un gros survol à ce niveau-là également. Mais là, cette semaine, grosse nouvelle.
Vieille nouvelle.
Un peu pour les mauvaises raisons. J'ai trouvé ça un peu triste ce qui est arrivé. Mais en même temps, c'était intéressant de voir ce qui est sorti du symposium des recrues l'an passé dans la NFL. Donc, événement où est-ce que tous les recrues entendent parler différents vétérans pour avoir un peu une idée là, des éléments qui vont faire partie de leur carrière. Et là, Chris Carter, l'ancien receveur de passe qui a été invité. Et ça a tourné un peu au vinaigre. Là. Les genres de conseils qu'il a donné aux recrues, là, c'était pas tellement souhaité. Hein?
Un conseil empoisonné. Chris Carter, qui était admis au temple de la renommée, ancien des Vikings, est carrément allé dire aux joueurs là, que si vous faites des mauvais coups, c'est correct. Mais l'important, c'est au moins d'avoir quelqu'un pour blâmer... Là, qui va faire de la prison à votre place.
Est-ce qu'on a le clip? On est-tu capable de trouver le clip?
Attends, laisse-moi regarder ça. On l'a.
Because y'all not gonna all do the right stuff now, all right? So I got to teach y'all how to get around all this stuff too. If you gonna have a crew, one of them fools got to know he going to jail. We'll get him out.
En gros,
avec son bon ami Warren Sapp qui récemment arrêté pour avoir sollicité des services d'une prostituée au Super Bowl.
Ça, en gros, ce qu'ils disent, c'est ça qui est vraiment épouvantable, c'est que à partir du moment où le joueur est une vedette de la NFL, dès qu'il décide de sortir, en fait, ils ne sont pas en train de leur dire de ne pas sortir, de ne pas consommer d'alcool. Ils leur disent, c'est sûr que vous allez le faire, mais trouvez-vous une façon, trouvez-vous un échappatoire. Puis là, ce que c'est en train dire, c'est qu'un de leurs amis devrait être le gars qui prend le blanc, qui va en prison, no matter what. Ça n'a pas de sens.
Si tu écoutes la vidéo, il explique que tu vas avoir plusieurs amis, un qui conduit ton auto, un qui fait ci, un qui fait ça, dont un qui va prendre le blanc puis aller en prison pour toi. Si t'es trop idiot pour faire quelque chose dans un bar à sortir.
Puis avec ton salaire, tu vas payer son bail. Là, tu
c'est vois, ça. Tu après, t'as Warren Sapp qui approuve en riant comme un gros idiot.
C'est triste un peu parce que, tu sais, dans le fond, ils sont là pour éduquer les recrues. Alors, au lieu d'y envoyer le message qu'ils doivent changer leur style de vie, ils disent, conservez votre style de vie, mais soyez plus intelligent que le système. Pour vous sortir du trou.
Voilà des trucs comment sortir du système comme il faut.
Pas un très bon exemple à donner aux jeunes, surtout qu'on sait que Chris Carter a eu beaucoup de problèmes dans sa carrière, justement avec des problèmes de consommation.
Ça a été long avant que sa carrière vraiment débute. Lui, il s'est fait couper une deuxième chance, puis là, c'est dommage parce que son gars n'a pas nécessairement eu l'air d'avoir appris de ses erreurs. Ça a été compliqué dans les rangs collégiaux. En tout cas, et aussi des nouvelles intéressantes de nos Québécois dans la NFL, parce qu'on le sait, ils sont en train de se batailler soit pour un poste de partant, soit pour un poste de l'alignement régulier, peut-être même l'équipe de pratique. Laurent Duvernay-Tardif est en action, a joué comme partant toute la première demi.
Lui est en bonne liste. Lui, ça va bien pas mal, ses affaires.
Mais c'était intéressant ce qui est arrivé, parce que jusqu'à la semaine passée, il était sur la deuxième unité, derrière Ben Grubbs, le gros agent libre des Chiefs. Ouais. C'est sûr et certain qu'il ne dépassera pas un gars à qui on a donné des millions. Exact. Mais là, on le met du côté droit, garde à droite, pour lui dire, garde, laisse-nous, prouve-nous que tu es capable de compétitionner à la deuxième semaine, donc contre l'unité défensive partant. J'ai eu la chance de regarder la première demi. Toi aussi, Jonathan, t'as trouvé ça comment?
C'est sûr qu'il affrontait une unité défensive très difficile avec les Seahawks de Seattle. A très bien fait. C'est certain qu'il y a des jeux qu'il aimerait revoir. Je me rappelle surtout en fin de demi, un sac qui a peut-être été coûteux puisqu'on venait de perdre une position pour un botté de placement. Mais je pense que c'est des répétitions de qualité qu'il a contre des partants. Michael Bennett, qui est peut-être un des meilleurs joueurs de ligne défensive.
Mais je pense à ça. On discutait de ça l'année passée aussi quand Foucault avait été lancé dans la mêlée un peu et qu'il avait dû affronter Junior Gallup. Mm-hmm. Quand tu te rends compte que chaque partie, ces joueurs-là, ils affrontent des joueurs incroyables de l'autre côté. Là.
On peut en parler justement de David Foucault, que lui aussi a eu un bon match. Je crois qu'il a joué à partir du troisième quart. Et puis, il a bien paru. Je veux dire, c'est beaucoup, je pense, d'amélioration depuis l'année dernière. Tu vois qu'il est plus à l'aise. Puis souvent, les gars, justement, gagnent en confiance. Déjà, au niveau aussi de leur jeu de pied, souvent qui est très difficile pour un joueur de ligne à l'attaque. Surtout un joueur de ligne à l'attaque qui vient du monde universitaire qui est québécois. Donc, avec la verge, puis des joueurs beaucoup plus petits.
Mais c'est le fun aussi qu'il y a eu des répétitions un petit peu plus significatives, parce que lors de la première semaine, il avait joué, on en a parlé, seulement 5 ou 6 minutes au quatrième quart, alors qu'on le sait, tu sais, dans les matchs hors concours, c'est peut-être pas le même enjeu. Là, jouer un petit peu plus tôt, c'est donc dire que peut-être qu'on lui offre la possibilité de se battre pour un troisième, deuxième poste de bloqueur.
Sa fenêtre d'opportunité est un peu meilleure.
Parce qu'on ne sera pas de cachette, s'il est 7, 8e bloqueur, c'est l'équipe de pratique ou rien.
Ouais, ça va être difficile pour lui.
Puis finalement, il y a aussi Andy Mulumba des Packers. Lui, l'année passée, a manqué la grande majorité de la saison avec une blessure. Il avait très bien fait lors de la première semaine. Comment vous avez trouvé sa performance lors du dernier week-end?
Je l'ai vu un petit peu moins pour ce qui est de Andy, mais je crois aussi qu'il a connu un bon match. Un match honnête, peut-être quelques jeux qu'il aimerait revoir, mais sinon, là, dans l'ensemble, ça ligne de plus en plus pour avoir un poste là, au niveau de... en tant que...
Il semble être dans les bonnes cordes des Packers quand même aussi. Je crois qu'il aime bien là-bas. De toute façon, sur les unités spéciales, il travaille très bien. Puis quand il joue en défensive, il fait définitivement pas mal paraître. Là.
Non, c'est ça, en tant que secondaire à l'extérieur, qui est une position très importante là, pour les Packers. Maintenant qu'ils ont déplacé Clay Matthews à l'intérieur. Ouais. Peut s'établir.
Les gars, je vous arrête, on pourrait en parler pendant plusieurs minutes. On a une émission chargée, évidemment. On va faire le survol de la NFL cette semaine. On s'attarde à l'américaine. On veut passer beaucoup de temps aussi à décortiquer l'alignement des différentes universités, des différents programmes du RSEQ, la saison qui débute dans 2 semaines. Et finalement, un petit retour sur la semaine dans la Ligue canadienne de football, mais surtout sur la situation un peu désastreuse du congédiement de Tom Higgins. On débute avec notre survol des matchs du week-end. Encore une fois, on s'attarde à la Ligue canadienne de football. On va débuter avec les Alouettes. Ça a été une semaine assez chargée. Tout d'abord, première victoire depuis 2000 du côté de BC Place à Vancouver. Les Lions qui étaient un peu une des bêtes noires de l'équipe montréalaise. Et là, on a vu une équipe qui a joué un match beaucoup plus constant, beaucoup plus égal. Donc, 4 bons quarts de football et les Alouettes dans une situation cruciale. Sont allés soutirer la victoire au Lyon par la marque de 23-13. Grosse nouvelle le lendemain de la victoire avec le congédiement de Tom Higgins. On va y revenir. Mais avec cette victoire-là, qui, comme je l'ai dit, garde les Alouettes en course pour les éliminatoires, j'aimerais avoir un peu votre évaluation du rendement de l'équipe.
On peut dire que ça avait très mal parti.
Ouais, première interception, première série, c'est vrai.
Une interception pour un toucher. Là. Mais après ça, quand même, Rakim Keito est l'offensive qui s'est replacée. Prend beaucoup de meilleures décisions avec le ballon. 16-19, donc ouais. Si on enlève l'interception, puis 2 passes qu'il a lancées dans les estrades.
Très, très, très efficace. Puis... Ils sont allés avec un style de jeu très physique dans la partie. Ils ont décidé de vraiment courir le ballon sur le
finalement, ouais. finalement, on a couru 4 quarts.
Je pense qu'ils ont écouté notre podcast, Charles-Antoine.
Oui, les dernières semaines, on disait justement qu'on devait se fier sur l'attaque au sol.
C'est malheureux, par exemple, parce que là, Tom Higgins commençait à maîtriser le français, commençait à écouter le podcast, là, on le congédie. <j'ai> Mais 36 jeux au sol, 36 courses contre 22 tentatives de passe parce que Tanner Marsh a joué un peu. Donc ça, c'était intéressant. Ça me fonctionnait au sol, donc pourquoi tenter des miracles quand on progresse au premier essai, quand Solomon Eliminium n'est pas en uniforme? Moi, j'ai trouvé le match âprement disputé, puis j'ai trouvé que finalement, Turk Schonert avait appelé une rencontre.
Deux porteurs de ballon, quand même assez dynamiques, Sutton et Ridley, mm-hmm. qui courent très bien le ballon. Une ligne à l'attaque, finalement, qui commence à aimer, à dominer la ligne défensive des autres équipes, à courir le ballon.
Une bonne façon de les permettre de s'imposer, c'est en allant avec l'attaque au sol.
Exact. Puis j'ai trouvé aussi la ligne à l'attaque. Et pas mauvaise. T'sais, oui, on avait beaucoup de difficultés contre Edmonton, mais c'est peut-être pas la ligne à l'attaque la plus physique, mais ils sont très agiles, très mobiles. Et là, on a couru beaucoup sur le périmètre, en ayant 2 porteurs dans le champ arrière, en utilisant Stephen Logan comme ailier inséré, en mouvement.
Qui est un joueur probablement qui est sous-utilisé depuis le début de l'année. Il est très, très dynamique avec le ballon. Il est dangereux. Ouais. Je trouve qu'on aurait justement là, commencé à lui donner une plus grande place dans l'attaque. C'est une très bonne idée.
Surtout quand il a son retour à BC Place, lui qui a joué la majorité de sa carrière là-bas. 2 porteurs de ballon physique, beaucoup de mouvement dans le champ arrière. Non, j'ai trouvé qu'un Turk Schonert avait été dans l'attention médiatique, mais là, il a vraiment été bon.
Puis après ça nous donne une chance de justement aller avec les play action, là, les jeux de course-passe. Puis autant au niveau de la zone payante que quand on est allé près de la zone début, on avait besoin d'un gros 2 points en fin de match. Sutton s'est retrouvé fin seul parce que Marsh attirait toute l'attention. Même chose, Marsh, pense que Marsh aussi, au niveau de la faux filade du corps, devient un atout clé parce qu'on a eu de la difficulté avec ça depuis le début de la saison. Puis il est allé chercher beaucoup de gros premiers jeux.
Encore une fois aussi, le faux, on dirait qu'on les garde sous silence parce que l'attaque ou les difficultés de l'attaque soutirent tellement d'attention. Mais quel match de la défense des Alouettes de Northrop. Andrew Harris, là, qui était la locomotive de l'équipe, qui dominait la Ligue canadienne par rapport aux verges au sol. 8 courses, 10 verges, a été neutralisé, ça a été désastreux. Et tout le temps, Loulé se retrouvait dans des situations de deuxième et long, et là, la pression s'amenait à lui tellement rapidement.
Si vous voulez voir où ça s'est passé vraiment avec Andrew Harris, regardez seulement la première série de jeu, les deux premiers plaqués qu'il a reçus
dans le match. Des plaqués percutants.
Venable, là, qui lui a montré rapidement que son match n'allait pas être très plaisant, puis tu voyais que vers la fin, il avait vraiment hâte de débarquer du terrain.
Ouais.
J'ai aimé comment aussi, bon, Carey Seber est de retour au jeu. Venable a très bien fait en son absence. Et là, au lieu de pénaliser Venable, on les a utilisés les deux en même temps, souvent sur le terrain. Ça a amené beaucoup de vitesse.
On avait parlé aussi de sa défensive à Noel Thorpe avec 3 joueurs de ligne défensive. Puis il est sorti un peu de son plan de match cette semaine dans le sens où il a amené beaucoup plus de pression sur le corps arrière dans le deuxième essai long. Puis ça a porté fruit. Il s'est rendu souvent à Travis Lulley.
Mais là, tu me parles de Noel Thorpe. Écoute. Depuis qu'il est dans la Ligue canadienne de football, il a beaucoup de succès. C'est pas son premier passage. Il avait bien fait à l'époque. A bien fait avec les Carabins. A bien fait avec les équipes du Canada. Et là, on décide, qui est une décision assez surprenante, de congédier Tom Higgins après la victoire. Mais surtout, on donne le poste à Jim Popp pour une 4e fois. Ça aurait pas pu être intéressant, justement, d'essayer Noel Thorpe. On perd de rien à lui dire « Hey, regarde, montre-nous ce que tu es capable de faire par intérim. Si ça fonctionne, on réévalue la situation. Peut-être qu'on t'offre le poste. Si ça fonctionne pas, peut-être que tu n'es pas prêt puis tu continues à exceller comme coordinateur défensif. » Mais non, encore une fois, le coach par défaut, Jim Popp, 4e fois. Pas tout à fait d'accord avec cette
décision. J'ai vu tweeter ça cette semaine. J'ai trouvé ça très intéressant comme commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve ça complètement ridicule. Ça me donne un peu l'impression, sérieusement, que Jim Popp, il aime
power
ça.
Power trip. Là.
Ouais, il aime ça être sous les projecteurs. Il aime ça. Même quand je l'ai écouté en entrevue, il expliquait « Ah, j'ai été au règne de cette équipe-là, j'ai déjà emmené à la Grey Cup, ci et ça. » J'ai l'impression que ça lui fait quand même plaisir de se retrouver entraîner un chef de cette équipe-là, en plus d'être...
Tu sais, Joe, toi, tu l'as côtoyé un peu avec les Alouettes. Un des meilleurs directeurs généraux de la Ligue canadienne de football, un œil pour le talent. Encore une fois, il nous l'a démontré cette année. Rakim Kito, Jonathan Effney, ainsi de suite.
Ouais.
Mais est-ce que, justement, il néglige pas son poste de directeur général en voulant aussi être entraîneur-chef?
Ben, je crois qu'à ce moment-là, il se met dans une position, au moins, pour justement évaluer son personnel. Donc là, tu parles de Noel Thorpe. Est-ce que c'est justement en le côtoyant tous les jours, puis en voyant un petit peu comment il agit, va-t-il pas justement se retourner vers lui l'année prochaine à ce moment-là?
Bonne façon de voir ça.
Je trouve ça bizarre qu'il dise ça comme ça, parce que dans le sens où, quand il est dans l'entourage de l'équipe, il est pas là tous les jours avec eux autres.
Souvent, il va être plus sur la route aux États-Unis en train de justement continuer au niveau du processus de recherche.
Mais justement, au lieu de faire ça en ce moment... Pendant les camps de la NFL, on sait, les coupures de la NFL approchent à grands pas. Ça, c'est un gros moment pour la Ligue canadienne de football. Là, il n'y a pas le choix d'être à temps plein à Montréal. Est-ce qu'il néglige pas le rôle qu'il fait si bien, en tout cas?
C'est vrai.
Puis l'autre chose aussi, c'est que... Bon, oui, l'équipe n'est pas extrêmement performante. On s'entend, mais elle n'est pas nécessairement mauvaise non plus. Non. Là. Beaucoup de défaites serrées. Là, on vient de gagner un gros match. On est à un point si les éliminatoires commençaient demain d'avoir le fameux changement de division. Puis là, on congédie Tom Higgins. Apparemment, la décision avait été prise par Robert Whittenall. Whittenall la veille, c'était déjà décidé.
Puis Whittenall, c'est lui-même qui avait engagé Higgins sans même en parler à Jim Popp. Et c'est lui-même qui congédie Higgins sans même en parler à Jim Popp. Une drôle de relation que ces deux-là ont, puis par rapport aux décisions qui sont prises dans les Alouettes. Je sais pas trop qu'est-ce que t'en penses, Jonathan.
C'est sûr qu'au niveau de la patience, peut-être qu'on aurait justement peut-être donné quelques matchs de plus à Tom Higgins parce qu'on est encore très très tôt dans la saison, puisqu'on peut regarder justement du côté de Saskatchewan qui n'ont pas encore gagné un match, puis pourtant leur coach est encore présent, puis c'est une équipe qui est reconnue pour aimer la victoire. Moi, je suis surtout désolé parce que je croyais que Tom Higgins, c'était à la fois un grand monsieur, je crois, vraiment quelqu'un qui
bonne amène personne.
Il a beaucoup de respect pour lui.
Exactement, qui a beaucoup de respect pour lui. Un homme qui amène vraiment cette ambiance-là, un petit peu de respect, puis de... protège ses joueurs. Aime tout simplement, justement, garder tout le monde prêt, tout le monde content, tout le monde travaille, tu sais, dans la même direction. Je crois que l'équipe était peut-être sur le point de tourner un petit peu le coin là, pendant cette saison-là. C'est dommage pour lui.
Ça a montré la porte là, assez brusquement.
Et là, on verra finalement si peut-être cette décision-là va porter fruit, va fouetter l'équipe. J'en doute un peu, mais malgré tout, les Alouettes, comme je l'ai dit, ont gagné le match en Colombie-Britannique 23-13. Et là, ont tout un test. Les Tiger Cats d'Hamilton qui marquent dans les 5 dernières victoires. L'équipe de l'heure. Ah, sans aucun doute. 5 dernières victoires, plus de 30 points en moyenne. Et là, ils ont gagné à Edmonton contre une des bonnes équipes de la Ligue. La meilleure défense de la Ligue avant le week-end. Ils ont marqué 49 points dans une victoire de 49-20. Et les Alouettes qui se rendent là jeudi. En ce moment, tu l'as dit, Victor, c'est l'équipe la plus complète, à mon avis, dans les Canadiens.
Zach Collaro, c'est complètement en feu. Leur défensive est incroyable.
Avant le match, la défense, les unités spéciales, les Tigers, il y avait autant de touchés que l'attaque des Alouettes.
C'est une statistique incroyable quand tu y penses. Je veux dire, c'est leur but, c'est d'arrêter l'attaque, pas d'en compter des points. Là.
Ouais, puis je pense que dans les derniers matchs, c'est vraiment des revirements, puis justement, la position de terrain qui leur donne rapidement l'avance. Puis on pourrait dire que l'attaque des Tiger Cats a le goût du sang. Là, donc, quand ils ont une chance, ils se font un plaisir là, de mettre des points sur le tableau.
Une petite mention pour Frédéric Plessius, l'ancien secondaire du Rouge et Or. Deux plaqués sur les unités spéciales et avec cette statistique, il amène au troisième rang en fait là, de la Ligue canadienne pour le nombre de plaqués sur les unités spéciales, évidemment, depuis le début de la saison avec 9, mais les deux premiers meneurs qui sont à 10. Donc, fait sentir sa présence à ce niveau-là. Et là, donc, Hamilton premier de l'Est avec 6 victoires, mais les Argos qui sont à égalité avec eux, puisque eux aussi sont allés chercher une victoire cruciale, cette fois-ci contre les Red Blacks d'Ottawa par la marque de 30-24.
Pourtant, Henry Burris qui avait eu un match 32-36, 426 verges.
Oh, wow!
Mais quand même, encore une fois, un gros revirement clé en fin de match de Okpologo. Qui a permis qui a donné la chance
du premier coup Okpologo, c'est très bien.
Puis du premier coup aussi pour les Argos, sont allés marquer des points en fin de match à nouveau. Puis on fait des jeux clés en défensive là, pour se permettre de partir avec la victoire. Là.
Et on a remis Ricky Ray sur la liste des blessés pour 6 matchs. Il pourra sortir de là un peu plus tôt si nécessaire, mais c'est mauvais signe. Mais en même temps...
Est-il vraiment blessé, Charles-Antoine?
C'est sûr qu'il n'est pas complètement rétabli, mais en même temps, son remplaçant Trevor Harris qui joue du gros, gros football. Finalement, on se retourne du côté de Saskatchewan qui n'ont pas encore pu goûter à la victoire. Une autre défaite serrée, mais les Stampeders de Calgary qui se sont emparés seuls du premier rang dans l'Ouest avec une victoire de 34-31 en Saskatchewan.
Le point tournant du match, vraiment, le Hail Mary, la passe
à Rodgers.
La passe en fin de demi à la suite d'un retour de beauté, de placement manqué, dont un joueur même de ligne à l'attaque s'est fait expulser sur le jeu. Une punition de 15 verges. Puis là, la passe qui pour le toucher, alors qu'il restait plus de temps au cadran, qui a vraiment coulé, plutôt fait mal aux Rough Riders. Puis là, en fin de match, on peut dire que c'est ces points-là qui ont fait la différence.
On parle beaucoup de Collaros, mais Bo Levi Mitchell ne donne pas sa place non plus dans la CFL. Il joue une très, 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 très bonne saison, encore une fois. Là.
Donc, sur ce, les deux équipes finalistes à la dernière Coupe Grey, c'est-à-dire les Stampeders de Calgary et les Tiger Cats d'Hamilton, qui continuent leur succès, leur domination. Les deux équipes sont en tête de leur division respective. Et la semaine prochaine, on aura droit à encore d'autres très bons duels. Ça débutera jeudi, comme mentionné, entre les Alouettes et les Tiger Cats à Hamilton à 19h30. Sur ces derniers sons historiques de la saison 2014 du football universitaire RSEQ, on souhaitait faire un petit retour sur la première semaine d'activité, si on veut. Il y a eu les premiers matchs hors concours du côté du football universitaire. Ça nous a donné un peu la possibilité de voir les forces et les faiblesses des différentes équipes et où chacune de ces équipes-là se situe à l'approche de la première semaine d'activité de la saison régulière qui aura lieu le week-end du 4-5 septembre. Si on débutait du côté des champions en titre de la Coupe Dunsmore, mais également de la Coupe Vanier, les Carabins, qui, eux, ont facilement remporté leur match face aux GGs d'Ottawa.
Ça semble pas avoir beaucoup baissé de régime par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Là, ils sont allés chercher toute une recrue en
Louis-Mathieu Normandin.
Normandin, qui, comme disait Joe tantôt, hors ligne, on pourrait dire. était destiné à aller jouer pour les Carabins puisqu'il habite à 2 minutes de là.
Un ancien du Collège Notre-Dame. Tu partais du Vieux-Montréal également.
Un gars habitué de jouer au Sepsum, mais ça a paru à son premier départ.
Ouais, ça 7-4, 135 verges, quelque chose comme ça.
Ça a été une des cibles de choix de Gabriel Cousineau qui lui aussi a eu l'air complètement en contrôle. On n'avait pas nécessairement de doute, ça a été le quart le plus précis au Canada l'an passé. 71,9% de ses passes complétées.
Ouh, belle statistique, ouais, Charles. Ouais, bon travail.
Non, quand même, hein? Et ça a été un peu ce qu'il a offert comme prestance, comme performance plutôt, face aux GG's en première demi. Il était patient dans la pochette protectrice. Un bon doigté sur ses passes, notamment Louis Mathieu Normandin. On voyait justement qu'il est en contrôle. Les petites subtilités qu'ils font d'un carrière, un grand carrière, il possède. Et l'attaque aérienne des Carabins, non seulement à cause de Normandin, là, mais qui devrait être encore très, très, très dangereuse.
Oui, le jeune Paquet, un transfert de l'Université de Sherbrooke, là, qui s'est illustré aussi, justement, a eu plus de temps en fin de match, là, tranquillement, quand on s'est mis à changer les effectifs. On a réalisé tout un catch assez impressionnant. On peut aussi parler quand même d'un défensif qui a très bien fait. C'est sûr, Ottawa, souvent, les équipes de l'Ontario quand même donnent un match un peu plus facile à l'équipe du Québec. Mais tout de même, pas beaucoup de faiblesses à ce niveau-là. Le jeune François Hamel, là, que nous, on a joué avec son frère, qu'on connaît bien.
Mon frère Julien.
Julien Hamel, très bon maraudeur pour les Carabins.
Ben lui, il s'est illustré, là, une interception, plusieurs plaqués retentissants, une échappée forcée.
Pas un poste facile à combler. Là. On s'entend, Julien Hamel en est à sa première campagne universitaire, un ancien des Chichas de Vanier, qui doit remplacer Anthony Cody, qui la semaine passée a fait son entrée officielle avec les Alouettes de Montréal. Et tu fais bien de le mentionner, le Julien Hamel, François Hamel, justement, qui semblait être prêt pour le système défensif de Paul-Eudy Saint-Villien et de Danny Machocha.
Puis Jonathan Boissonneau-Graou, qui a eu tout un match aussi.
Moi, j'ai un petit gars de Trois-Rivières!
J'allais coacher dans le temps au cadet. Puis déjà, à ce temps-là, on pouvait voir qu'il allait être dominant. Et je pense que...
Ça explique tes cheveux blancs, hein?
Il va donner beaucoup, il va donner beaucoup de mots de tête aux différents coachs à l'attaque de la Ligue.
Très bon joueur, très bon jeune homme aussi, très gentil, très aimable.
Et finalement, ben il faut quand même mentionner la prestance de deux secondaires, Frédéric Chagnon, et Xavier Prévost. Le premier qui doit remplacer Byron Archambault, c'est quand même une tâche corsée.
Les bons souliers à remplir.
Ouais, et Xavier Prévost qui, lui, dans le fond, va un peu remplacer, à tout le moins pour l'instant, le rôle que Chagnon jouait lorsqu'on joue une défense, si on veut dire 34. Là.
Est-ce que Chagnon, on peut dire qu'il a vraiment le physique de l'emploi, un grand secondaire? Puis il bouge très bien là, pour sa grandeur.
6 pieds, 4 pouces, 220 livres et plus. Oh, donc, un format différent de Byron Archambault, mais qui amène une dimension physique intéressante puis qui bouge très bien. Là,
avec Alex Cormier-Raymond, ouais. qui va continuer d'être un pilier de défensif pour cette défensive-là. On peut dire que c'est l'avantage, on peut dire, d'une équipe championne. Comme on a vu Laval pendant plusieurs années, qui avait beaucoup de profondeur, très, très bon recrutement. On peut dire que les Carabins, tranquillement, commencent à avoir cette même profondeur-là. Juste par exemple, on a perdu Sean Arrington rapidement dans le match à la suite d'un contact assez percutant.
Ouais.
Puis Will Altema, Gabriel Parent, plusieurs porteurs de ballon ont très bien fait là, tout au long du match.
Croyez-vous qu'ils vont répéter, les gars?
C'est possible, ils ont les effectifs pour le faire. Puis maintenant, je pense qu'ils ont la confiance, puis le fameux swagger qu'ils ont besoin.
Avec un corps de cinquième année, c'est...
Tout est possible. Une belle profondeur, mais en même temps, il faut regarder de l'autre côté de la 40 ou de la 20, tout dépendamment si vous êtes un gars de banlieue. le Rougeard, qui n'a pas joué encore de match hors concours, alors de leur côté, ça sera ce week-end face à UBC, la nouvelle équipe de Blake Neal, l'ancien gourou des Dinos de Calgary. Et à première vue, le Rougeard, qui a très peu de faiblesses également. Des joueurs qui ont joué tôt l'an passé. On peut penser au carrière Hugo Richard qui a tout cassé, mais également à Christopher Amoa, Vincent Allary Tardif. Et très peu de faiblesses. Et les seules faiblesses, pas les seules faiblesses, mais les seuls points d'interrogation, les seules places laissées vacantes par des vétérans devraient être occupées par des recrues d'exception, des recrues qui sont en avance sur leur temps.
Comme sur la ligne défensive, par exemple. Un ancien du Collège Notre-Dame, lui aussi, souvenir, Mathieu Betts, qui est tout qu'un joueur défensif, qui s'amène à Laval. Et puis, je crois qu'à sa saison recrue, il devrait faire écartiller encore beaucoup
Puis on est certain
qu'ils ont eu... Cartier des jambes, maintenant?
Cartier des... J'ose croire que ça va être des yeux, mais à Laval, on sait jamais.
Mais on est certain qu'ils ont quand même eu un certain goût amer avec, avec la défaite de l'année passée en Coupe Dunsmore. Vont sûrement rebondir, là.
La Coupe Vanier qui s'amène à Québec pour les deux prochaines années?
Oui, absolument. Mmh. On a reçu l'événement avec brio dans le passé. Et après le succès à l'Université de Montréal via le Stade McGill, là, ça devrait être une autre journée de football mémorable et qu'ils voudront absolument être présents.
Exact. On peut dire que les autres équipes du Canada doivent déjà avoir, pas beaucoup d'appréhension à venir jouer encore une fois à Québec, que ce soit contre n'importe quelle équipe du circuit québécois.
Donc, on vous en parlera un peu plus la semaine prochaine suite à leur premier match hors concours. Mais encore une fois, cette année, il faut se l'avouer, du côté du football québécois, le duel principal sera celui entre le Rouge et Or et les Carabins. D'ailleurs, la saison qui va s'ouvrir pour ces deux équipes-là avec un duel, une reprise de la Coupe Dunsmore, alors que les Carabins, le 5 septembre, iront rendre visite au Rouge et Or en soirée. Il y avait également de l'action du côté de l'Estrie, mais pour une des deux équipes, puisque les Gators de Bishop ont décidé de ne pas jouer de match hors concours. Mais le Vert et Or qui a malheureusement perdu son match contre une formation de troisième année de distance, les Ravens de Carleton, qui ont gagné un match assez serré.
On s'entend que c'est un match hors concours. Là, la valeur de la victoire est peut-être diminuée, là, mais par contre, après trois saisons seulement d'existence pour cette équipe-là, là, du côté du Vert et Or, là, on s'attendait à une meilleure performance un peu. Là, on s'entend que c'est une équipe francophone au Québec, on peut plus de profondeur, malgré le fait que c'est un match hors concours. Moi, j'étais un peu déçu de la performance du Vert et Or, je vous dirais.
Manquer beaucoup d'opportunisme, trois placements manqués, donc ça c'est difficile de prendre un rythme là, au début du match quand on manque trois placements. C'est certain que si on avait, par exemple, de Jérémy Doyon-Roch qui avait joué tout le match, peut-être le résultat serait différent. Mais il va vraiment falloir qu'il soit plus opportuniste dans la zone payante.
Mais, tu parles du fait que c'est sa cinquième année, corps vétéran, ligne à l'attaque aussi qui est intacte, qui a pris une année d'expérience. Donc ça devrait être un des points forts du côté de Sherbrooke. Mais on a perdu les deux cibles de choix de Rock dans les dernières années, Sébastien Blanchard, Francis Lapointe, qui ont gradué. Lapointe qui est maintenant entraîneur des receveurs de passe notamment. Mais ça serait intéressant de surveiller le tout parce que aussi c'est un nouveau coordinateur à l'attaque. Ça a été l'entraîneur-chef David Lessard depuis ses débuts qui gérait l'attaque. Maintenant, c'est un gars qu'on connaît bien, Mathieu Pronovo.
Diablos.
Oui, exactement, qui a bien gravi les échelons dans le milieu du coaching. L'an passé, avait été nommé coordinateur à l'attaque, mais comme on le voit souvent dans la NFL, c'était un titre où est-ce qu'il s'occupait du plan de match, etc., etc. Mais là, pour la première fois, aura l'opportunité de sélectionner les stratégies à l'attaque. Et il faudra voir, mais c'est sûr et certain que même si on a manqué d'opportunistes, il fallait gagner ce match-là pour la confiance. C'est une jeune équipe dans l'Ontario qui est au milieu de peloton. Donc, défaite du Vert-Or de Sherbrooke par la marque de 16-12. Il y avait également de l'action du côté de Concordia dimanche en après-midi. Équipe assez jeune, celle des Stingers, qui ont causé la surprise l'an passé avec 5 victoires. Nouvel entraîneur-chef, Mickey Donovan, qui a amené une énergie assez intéressante à ce niveau-là. Et là, ils sont allés battre une équipe qui, à chaque année, est respectable dans la Conférence de l'Ontario. Des très bonnes saisons récemment aussi. Les Golden Gales de Queens, donc Concordia, qui est sortie victorieuse en fin de match 21-18 contre l'Université de Queens.
Donc, la deuxième année là, sous les ordres de Mickey Donovan, ça va être intéressant de voir. On sait qu'ils ont beaucoup recruté au niveau des États-Unis. Est-ce que ces joueurs-là vont commencer à vraiment devenir des joueurs d'impact? Ce sera intéressant de voir. Puis, il faudrait qu'ils soient plus constants contre les grosses équipes là, de la division pour tranquillement pouvoir s'établir là, comme l'équipe peut-être troisième ou quatrième là, régulière de la conférence.
Justement, là, on aimerait savoir un peu plus de compétition là, avec les équipes anglophones et les équipes francophones du Québec. Là. Depuis plusieurs années, les équipes anglophones, en bon québécois, là, ils tirent de la patte. Là, ils ont de la difficulté avec le recrutement, ils ont de la difficulté avec les victoires. Donc,
Mais tu sais, c'est encourageant tant pour Concordia que même pour l'Université McGill, changement de garde avec Ronald Hiller. Les deux universités qui ont eu des bonnes séances de recrutement cette année, mais la majorité de ces joueurs-là vont joindre les rangs de l'équipe l'an prochain. Et aussi, de toute façon, on l'a vu avec les Carabins l'an passé, avec le Rouge et Or pour plusieurs années. C'est difficile de gagner avec une équipe qui n'est pas à maturité. Donc, il faut laisser un peu la chance au coureur, mais les nouveaux entraîneurs-chefs qui ont amené une nouvelle dynamique dans ces équipes-là. D'ailleurs, McGill Ah, ça a été plutôt difficile. Eux jouaient à domicile face à l'Université de Toronto, qui a eu beaucoup de difficultés dans les dernières années. Mais l'Université de Toronto qui a amené une attaque intéressante et justement défensivement, là, on était incapable du côté des Redmen de ralentir le jeu aérien. Ligne à l'attaque de McGill et leur ligne défensive qui sont ils ont de la difficulté un peu miniature. Et ça, dans la Conférence Québec, c'est souvent ce qui peut faire la différence. Donc, une année qui devrait s'avérer assez longue pour McGill, mais le futur est un petit peu plus prometteur avec des jeunes bons joueurs qui se joignent au rang de l'équipe là, depuis quelques mois. Et finalement, ben, la dernière équipe, on n'a pas eu la chance de les voir en action. Les Gators de l'Université Bishop, eux aussi, ça a été un petit peu plus difficile du côté du recrutement depuis quelques années. C'est une équipe qui est en reconstruction après avoir eu dans ses rangs le joueur par excellence au Canada, il y a de ça 2 ans, Jordan Heather. Donc, du côté des 3 universités anglophones, il faudra aller chercher les duels cruciaux au sein des batailles avec les autres universités anglophones. On sait que c'est un classement par tiers, donc McGill, Bishop et Concordia qui vont s'affronter 2 fois. Même chose pour les 3 programmes francophones. Et on pourra voir là, qui sera en mesure d'aller peut-être se glisser.
Ça serait bien de les voir peut-être aller compétitionner avec Sherbrooke ou même peut-être, ça va être difficile, mais peut-être même aller voler une victoire à Montréal ou à Laval d'une de ces équipes-là.
Ouais, c'est un des meilleurs outils de recrutement, c'est la victoire. Hein. Si on est en mesure de prouver un peu comme Concordia l'a fait l'an passé, qu'on est capable d'être compétitif, peut-être.
Tu dis, c'est vrai, au moins être compétitif, ouais, dans les matchs. Pas un 40-0.
Je crois qu'il y a de plus en plus quand même de talent québécois. Ça s'agit des fois d'être un petit peu original au niveau de son recrutement. C'est d'essayer d'offrir quelque chose de différent des autres. Je crois que chaque université anglophone souvent peut quand même offrir justement le fait de devenir bilingue à des jeunes joueurs. Puis aussi le fait d'offrir beaucoup de terrain, la chance de jouer rapidement. Je crois qu'il des fois, ils se peut-être ont tendance à se trouver un petit peu d'excuses, mais s'ils mettent
en main. C'était le cas avant, peut-être, mais là, justement, avec des jeunes entraîneurs-chefs, on en a parlé.
C'est vrai.
Mickey Donovan
Keller est en train de changer complètement la dynamique de Concordia.
Pour l'avoir côtoyé, c'est quelqu'un qui a une aura particulière. Lui et son frère, Pat Donovan, amènent vraiment un élément de compétition intéressant. Même chose pour Ronnie Lair, qui a eu du succès partout où il est passé comme joueur, comme entraîneur, a appris de plusieurs grands entraîneurs, notamment Danny Machocha. Noel Thorpe aussi, c'est vrai, son système défensif.
C'est bien entouré aussi.
Ouais, des jeunes coordonnateurs, Benoît Groulx, Sébastien Lévesque.
Des gars impliqués souvent au niveau d'équipe Québec.
Ouais, donc les équipes sont sur la bonne route, mais en même temps, cette route-là, elle est quand même longue.
Ouais, puis il est temps qu'on voit les résultats aussi. Ouais, là.
Exactement, donc on aura droit à un dernier match hors concours ce samedi à Québec, UBC qui affrontera le Rouge et Or, et la semaine suivante, les activités du football universitaire, du RSEQ, qui vont se lancer officiellement avec la première semaine de la saison régulière. La semaine passée, on vous a offert un survol de la nationale dans la NFL. Cette semaine, à quelques semaines du début de la saison, on va couvrir l'américaine, division par division. Il y a des batailles très excitantes à prévoir et on débute justement avec une des divisions qui pourrait, contrairement aux années précédentes, être une des plus relevées dans la Ligue, l'américaine Est, c'est-à-dire la division des Bills, des Dolphins, des Patriots et finalement des Jets.
J-E-T-S, Jets, Jets, Jets!
Ça, c'est des effets sonores. Tu m'as jeté en bas de ma chaise, Victor. On débute du côté du Rex Ryan Land. Les Bills de Buffalo, l'énergie des fans s'est décuplée depuis l'embauche non seulement de l'entraîneur coloré qui a eu relativement de succès avec les Jets, mais également d'un porteur de ballon de premier plan en LeSean McCoy. L'an passé, on terminait la saison avec une fiche de 9 victoires, 7 défaites, qui est quand même intéressant. Mais là, cette année, avec les additions, on a espoir que les Bills pourraient se tailler une place dans les éliminatoires pour la première fois depuis plus d'une dizaine d'années.
Ma grosse interrogation, c'est est-ce qu'au niveau de l'attaque, on va pouvoir rester en santé? On sait que déjà au niveau des porteurs de ballon, on a un hécatombe à cette position-là. Je pense que les quatre premiers porteurs de ballon sont blessés. Aussi, il y a Percy Harvin qui éprouve encore des difficultés au niveau de ses hanches, ce qui n'est pas une blessure peu commune, mais aussi qui peut durer très longtemps durant une saison.
La bonne nouvelle, c'est qu'on semble avoir trouvé quand même 2 carrières qui vont être assez efficaces. Le Tyrod Taylor qui joue du... En tout cas, dans la pré-saison à date qui joue du très bon football. Et puis Matt Cassel aussi qui est très efficace.
Ouais, mais AJ Manuel n'a pas non plus été épouvantable. Là. Il a ramené l'équipe de l'arrière, ont gagné la
mais
la
il a toujours joué dans des situations un peu perdues contre la troisième ou quatrième équipe. C'est dur à juger. Là. Il faudrait qu'il donne sa vraie chance au début. Là.
Mais tu vois ça, je prends toujours ça un peu avec un grain de sel. Parce que oui, il n'a pas joué contre la meilleure défense, mais il n'a pas non plus joué avec les meilleurs receveurs, le premier porteur de ballon, exact. Alors que Tyrod Taylor l'a fait. Je suis pas en train de dire que AJ Manuel va remporter cette bataille-là parce que Tyrod Taylor est impressionnant. Mais moi, je pense que c'est une lutte qui n'est pas encore finie entre trois carrières.
Tyrod Taylor, je pense qu'il avait beaucoup d'éléments clés là, quand il était avec les Ravens de Baltimore. Je sais qu'il y avait beaucoup de partisans du côté des joueurs de l'équipe. On savait que Joe Flacco allait être le carrière de l'équipe, mais comme remplaçant, là, avait prouvé beaucoup de choses. Puis ça fait depuis longtemps que Rex Ryan voulait échanger pour aller chercher Tyrod Taylor. Je crois qu'il pourrait s'établir cette année comme un très bon carrière.
John Harbaugh a dit que c'était sans aucun doute le carrière le plus rapide de la NFL. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, il sort de ses jambes comme un plan B. Donc, c'est pas la pierre angulaire de son jeu.
Impressionnant.
Il est bon dans la prochaine protectrice. Il
lance le ballon, tout
ça. Et je trouve qu'il cadre bien, non seulement parce qu'il amène la dimension au sol, mais aussi parce qu'il fait très peu d'erreurs dans la philosophie de Rex Ryan. Du football conservateur, une grosse défense, et ça, les Bills vont en avoir toute une, le meilleur front, à mon avis, de la NFL. Là, on a un porteur de ballon, oui, qui est blessé à l'ischio-jambier, mais qui devrait être en uniforme rapidement dans la saison, à LeSean McCoy. Donc, le carrière n'a pas besoin d'être exceptionnel. Il a juste besoin de contrôler le match.
On n'a pas parlé de la défensive, mais on sait que cette unité-là va être dominante tout au long de la saison. Un front défensif, on en a parlé plus tôt cette année, un front défensif qui va être dominant avec un nouveau carrière qui adore justement mettre de la pression, des très bons demi-défensifs. Une petite question au niveau des secondaires, mais souvent quand on est bien entouré à ce niveau-là, c'est facile d'exceller. Je crois que c'est une équipe qui va donner beaucoup de maux de tête là, aux grosses équipes de cette division-là puis de toute la AFC.
Parfait. C'est une bonne façon de passer du côté d'une autre équipe qui s'est améliorée également beaucoup sur papier à tout le moins, les Dolphins de Miami. Eux aussi, une fiche respectable de 8 victoires, 8 défaites. On ajoute à ça le joueur le mieux payé de tous les temps, autre qu'à la position de carrière, et j'ai nommé le plaqueur défensif Ndamukong Suh, un méga contrat pour aller ancrer une ligne défensive qui était déjà très compétitive. On connaît bien Cameron Wake, qui a été connu au tout début dans la Ligue canadienne de football, également Oliver Vernon. Mais là, la vraie question, est-ce que Ryan Tannehill est finalement rendu dans l'élite au poste de corps arrière? On l'a greffé au noyau des
Ils lui ont donné outils. Le contrat pour, en
tout cas. Le contrat, absolument. On lui a fait confiance. Ouais. On lui a aussi donné des armes intéressantes. Kenny Stills, Greg Jennings, Devontae Parker dans le recrutement. Est-ce que l'attaque des Dolphins peut être une des meilleures dans cette division?
Je crois que oui. Moi, c'est mon équipe que je choisis pour remporter la division.
Par-dessus les Patriots?
Si on garde la suspension de 4 matchs à Tom Brady, je crois que c'est l'équipe qui va l'emporter.
Bon point. Écoute, c'est une équipe qui a performé l'an passé. Tannehill a progressé à chacune de ses campagnes, tant d'un point de vue statistique que d'un point de vue décisionnel. Mm-hmm. On voit qu'il est en contrôle. C'est un bon athlète, mais en même temps, il n'a pas besoin d'utiliser encore ses qualités athlétiques. C'est donc dire qu'il est confortable dans la prochaine.
Ils l'ont bien entouré, comme tu as dit tantôt. Absolument. Avec Lamar Miller, ils ont allé chercher plusieurs bons receveurs.
Vétéran Greg Jennings.
Exactement. Un vétéran qui avait grandement besoin dans le corps des receveurs là-bas aux Dolphins parce que c'était plutôt jeune aux Dolphins.
Ben, tu sais, on a parlé un peu de Mike Wallace la semaine passée qui est maintenant avec les Vikings. Mike Wallace, c'était un marchand de vitesse, mais il était seul dans cette attaque-là dans le passé. Puis c'est pas un receveur qui peut prendre le lot de l'attaque aérienne sur ses épaules. Alors que là, maintenant, on a trois joueurs qui se complètent bien. Kenny Stills, là, attendez-vous à avoir une grande saison de lui. Je l'ai regardé jouer avec les Saints les dernières années. Il est vraiment prometteur. Greg Jennings, qui connaît bien la NFL, connaît bien les défenses. Et finalement, Devontae Parker, un des receveurs les plus talentueux dans ce repêchage-là. Je suis d'accord avec toi, Joe. Je pense que c'est une équipe qui pourrait causer la surprise. Mais en même temps, il faudra sortir de cette division-là qui risque d'être très compétitive. Non seulement parce que les Patriots sont toujours compétitifs, on y reviendra, mais également parce que les Jets de New York se sont améliorés également.
C'est vrai, les Jets qui, avec sûr qu'au niveau du poste de corps, on a quand même un petit pépin au niveau du camp d'entraînement lorsque notre carrière partant s'est fait casser la mâchoire là, par un joueur en défensive qui est maintenant rendu avec les Bills.
Rex Ryan n'est pas fou.
Mais pour ce qui est des Jets, c'est au niveau de la défense, vraiment, où les améliorations sont considérables. Darrell Revis qui revient là, après un séjour avec les Patriots et une bague de plus avec son ancien partenaire Cromarty. Le nouveau coach qui va aider beaucoup au niveau de la défensive.
Boys. Sheldon Richardson, son absence va faire mal par contre là, avec sa suspension. Là.
Ouais, c'est vrai.
On a encore Mohamed Wilkerson qui est peut-être un des jeunes phénomènes de la Ligue nationale.
Phénomène de fort.
Mais est-ce que c'est un bon débat rapidement à voir? Quelle ligne défensive est la plus impressionnante? Celle des Jets? Non seulement, oui, on a perdu Sheldon Richardson, mais on a repêché peut-être c'était le joueur le plus athlétique du repêchage en Leonard Williams. Ou celle des Bills de Buffalo?
Je pense que je pourrais dire l'avantage, au niveau de la ligne, j'ai un avantage à Buffalo, mais étant donné qu'on a deux bons demi-coins, la ligne des Jets va pouvoir envoyer de la pression seulement à 4, puis on va avoir beaucoup de temps pour se rendre au quart. Je pense qu'ils vont faire des dommages tout au long de la saison. Quand tu es dans une division avec justement Ryan Tannehill, Tom Brady, c'est des bons éléments à avoir.
Tu as besoin de beaucoup de pression sur le carrière.
Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas, finalement, on a fait peut-être les choses à l'inverse. Mais l'an passé, on avait fait l'acquisition d'Eric Decker, tu sais, qui avait bien fait avec Peyton Manning, mais dans un rôle de troisième receveur, très peu de situations à couverture double. Il profitait du fait que l'attaque aérienne était tellement versatile. Et il n'a pas eu énormément de succès l'an passé avec les Jets. Ça n'a pas été épouvantable, mais tu sais, 74 attrapés, 962 verges, seulement 5 touchés. Et là, on amène finalement une cible de premier choix, de premier ordre, pour enlever de la pression sur Eric Decker en Brandon Marshall. Oui, il n'est plus en début de carrière, mais c'est quand même un receveur qui a encore du gros football à offrir. Il
semble en très bonne forme. Quand tu regardes le camp d'entraînement qu'il est en train d'avoir, Brandon Marshall, je crois qu'il lui reste encore au moins deux ou trois bonnes années
de football. Mon problème avec Brandon Marshall, c'est des fois quand ça commence à moins bien aller, c'est un joueur qui peut rapidement sortir de son match, va avoir tendance à perdre la concentration, des fois peut-être échapper des ballons. Puis aussi, avec justement ce qui se passe avec Geno Smith, puis les problèmes dans le vestiaire, je crois que c'est peut-être à ce niveau-là où plutôt l'équipe des Jets va avoir des difficultés. Des fois, au niveau de la cohésion, ils ont du potentiel, mais je crois que ça va être quand même difficile cette année.
Et encore une fois, là, ça devrait être Ryan Fitzpatrick qui voit de l'action pour une bonne portion de la saison, en tout cas, jusqu'à ce que la mâchoire de Geno Tyson Smith soit rétablie. Mais Fitzpatrick, un peu à l'instar des Bills, n'a pas besoin de nécessairement gagner les rencontres, a seulement besoin de ne pas les perdre. Ted Bowles a eu beaucoup de succès l'an passé avec les Cardinals, même avec l'absence de Carson Palmer. Donc, je ne vois pas les Jets sortir de la division, mais je vois certainement les Jets aller jouer pour près de 500 et donner tout un défi aux autres équipes de la conférence. Et finalement, l'équipe qui, année après année, sortait relativement facilement de cette division, qui aura plusieurs défis, non seulement à l'interne, mais à l'externe, ce sont les Patriots, qui avaient finalement, facilement plutôt remporté l'Est avec 12 victoires l'an passé.
Les gars, moi je vais aller d'une prédiction un petit peu osée. Si on maintient la suspension de 4 matchs à Tom Brady, je prévois que pour la première fois, la deuxième fois en 14 ans, la première fois où Tom Brady joue toute la saison, ils manqueront les séries éliminatoires.
Moi je crois, j'ai de la misère à croire ça. Je te dirais qu'à chaque année, j'avais fait un plaisir de parier contre les Patriots. Et puis à chaque année, Tom Brady et Bill Belichick me font changer d'idée en me ramenant ça dans le visage. En gagnant le Super Bowl encore l'année dernière, je croyais moi qu'après les deux matchs de Tom Brady, j'étais presque... C'est une équipe qu'on pourrait dire que j'aime détester, on pourrait même dire. Là. Et puis...
Chose certaine, par contre, Jimmy Garoppolo, hier, là, a prouvé qu'il était capable de jouer du bon football. 28 en 33, 269 verges. Emmener cette équipe-là de façon méthodique contre une défense quand même coriace. Là. Celle des Saints, c'est quand même Rob Ryan, qui est comme son frère, un gourou défensif, et a distribué le ballon, a montré beaucoup de calme, de confiance, dans la pochette protectrice, a sorti de sa pochette également. Il trouve toujours une solution.
Sauf que toutefois, on perd Tom Brady pour 4 matchs, puis en plus, pour la première fois depuis peut-être justement 10-14 ans, on joue dans une division où vraiment on a des équipes en opposition qui sont coriaces, autant au niveau des Bills que des Dolphins. Puis comme on a parlé, les Jets ne font pas un match donné avec leur grosse défensive. Puis ils ont perdu beaucoup d'éléments justement en défensive. Moi, je pense que
les défensives vont leur faire mal. Brandon Browner et
Darrell Revis, Revis
qui sont partis.
Dans le système à Belichick, c'est un game changer parce que c'est un gars qui permet d'envoyer plus de pression, qui a de fermer le meilleur
sort. Et avec le vétéran Reggie Wayne, il faudra surveiller. Les Patriots trouvent toujours une façon de bien faire les choses. J'aimerais maintenant qu'on se dirige du côté de la division Nord, division qui a produit trois équipes en éliminatoire l'an passé. Les Ravens de Baltimore, les Bengals de Cincinnati et les Steelers de Pittsburgh. Si on débute du côté de la formation de John Harbaugh, qui a remporté 10 de ses victoires l'an passé, finit 3e dans la division, est-ce qu'on peut, avec le nouveau coordinateur à l'attaque, l'ancien des Alouettes, Mark Trestman, espérer une saison intéressante?
Moi, c'est peut-être mes favoris pour remporter le titre de division. Ça va être très serré comme à chaque année avec les Steelers de Pittsburgh. Mais on a encore de très bons éléments, autant en offensive qu'en défensive. Moi, mon joueur à surveiller, là, c'est Justin Forsett, un gars qui garde pratiquement une moyenne de 6 verges par course. Il a toujours une bonne ligne à l'attaque là, au niveau des Ravens de Baltimore.
Et d'un point de vue fantasy, là, si on regarde comment Trestman a utilisé Matt Forte dans le jeu aérien l'an passé, attendez-vous à avoir beaucoup de points de réception. Si votre pool récompense cette facette-là du jeu des porteurs de ballon, Forsett, un excellent sleeper, pour parler en bon français.
Au niveau des receveurs, c'est sûr que Steve Smith est vieillissant. Mais
un des joueurs préférés de la NFL, c'est Steve Smith.
Toujours encore le feu brûlant.
Le feu brûlant. Ça, c'est chaud.
Ils ont sélectionné aussi un très bon receveur dans le repêchage, Breshad Perriman, qui est un marchand de vitesse et très, très, très gros gaillard.
Un peu le remplaçant de Torrey Smith, exactement, qui est maintenant les Niners, pour ouvrir l'entrezone.
Et Max Williams, qui est rapproché, merci Charles-Antoine, qui va remplacer Dennis Pita, qui a eu beaucoup de aux prises beaucoup avec Dennis.
Dennis Pita!
Tu me donnes faim,
qui a eu beaucoup, il est très éprouvé par les blessures dernièrement.
Finalement, du côté des Ravens, un joueur à surveiller, un joueur émergent qui pourrait rapidement faire oublier le grand Ray Lewis aux fans des Ravens, c'est CJ Mosley. C'est entouré dans tes notes. J'ai volé tes notes. un produit de l'Université d'Alabama qui avait connu beaucoup de succès l'an passé. Hey, je vous amène du côté des Bungles. Marvin Lewis, 13e année. Beaucoup de continuité à ce niveau-là, mais encore une fois, l'an passé, très peu de succès en éliminatoire après une fiche très positive de 10 victoires, 5 défaites et une nulle. On a eu encore de la difficulté et ont perdu dans leur premier match d'éliminatoire. Est-ce que cette équipe-là va finalement passer à la prochaine étape?
Marvin Lewis, là, qui est vraiment sur la chaise éjectable cette année, là, il va falloir que ça passe ou ça casse. Là. D'ailleurs, j'ai vu un article qui essaie de changer complètement sa façon de travailler avec ses joueurs, ses entraîneurs, parce qu'il dit que ça fait plusieurs années qu'il fonctionne de la même façon, qu'il a du succès, mais qu'il ne réussit pas à passer la première ronde des éliminatoires.
Bonne nouvelle pour eux. Toutefois, on retrouve le Geno Atkins au niveau de la défensive. On va encore avoir une défensive quand même dominante à chaque année, mais c'est tellement une division qui est difficile. À chaque semaine, là, c'est du...
On s'entretue,
c'est difficile, c'est physique, beaucoup de chances de blessures. Moi, je les vois avoir peut-être une saison au-dessus de 500, mais quand même rater les séries de justesse.
Avait donné énormément de verges du côté de l'attaque des Steelers dans leurs deux rencontres l'an passé. Et justement, la défense là, qui devra... Drake Kirkpatrick, qui est choix de première ronde, si je ne m'abuse, il y a ça quelques années, qui doit... élever son jeu d'un cran, surtout quand on affronte des gars comme Steve Smith et Antonio Brown deux fois par année. Justement, du côté des Steelers, l'an passé, une des bonnes attaques dans la NFL. Deuxième chapitre-là pour le nombre de verges par match. Big Ben Roethlisberger, qui, oui, a connu des années très fertiles à l'attaque lors de ses victoires au Super Bowl, mais cette année, l'an passé plutôt, ça a probablement été statistiquement sa meilleure campagne.
Il est comme le bon vin, il s'améliore en vieillissant. Et on l'appelle Houdini parce qu'il réussit toujours à se sauver là, de la pression. À la grosseur qu'il a, je vous mets au défi de réussir à le rabattre au sol. Puis avec Antonio Brown, maintenant beaucoup d'armes à l'offensive, il est très dangereux. Là.
Pour moi, là, cette équipe-là, je crois que ça va être elle qui va sortir de cette division-là. D'ailleurs, si Le'Veon Bell joue une saison complète, je crois que c'est un joueur qui pourrait éventuellement être candidat MVP à la Ligue. C'est un joueur tellement complet, dynamique par la passe. Ouais. Quand il a le ballon dans les mains au sol, il est incroyablement dangereux. C'est un joueur, je crois, qui va gagner le MVP un jour dans sa
carrière. Peut-être moi, au niveau de la défensive, que j'ai quelques points d'interrogation. On a un nouveau coach à la défensive en Keith Butler. Mais aussi, on parlait de CJ Mosley comme d'un jeune secondaire imposant, prometteur. Mais Ryan Chaser, qui est un petit peu la même chose chez les Steelers, ça serait intéressant de voir comment s'ils vont rebondir cette année, parce que l'année dernière, je pense que c'est la défensive qui leur coûtait des matchs.
3 demi-coins perdus dans l'entre-saison, 2 à la retraite, Troy Polamalu, qui était rendu peut-être à ce niveau-là dans sa carrière, mais qui a quand même été l'âme de cette défense-là pendant la dernière décennie. Lui et Ike Taylor ont pris leur retraite, Bryce McCann aussi, demi-coin. Faudra voir à ce niveau-là, parce qu'en ce moment, sur la charte de profondeur, c'est Cortez Allen, B.W. Webb, 2 demi-coin qui ont très peu d'expérience. Et là, je me répète, mais encore une fois, du côté des Steelers, on affrontera de très bons receveurs, notamment A.J. Green, qui lui aussi leur avait fait mal. Mais je suis d'accord, je pense que c'est une équipe qui est complète, qui a la majorité de ses positions sont occupés par de très bons joueurs. Finalement, vous avez aimé cette expression-là la semaine passée, je reviens à la charge avec les enfants pauvres de la division, les Browns de Cleveland. Est-ce que finalement, la cure de désintoxication de Johnny Manziel a été le pas de recul qu'il avait besoin pour réaligner sa carrière? À tout le moins, a eu beaucoup de succès depuis le début des matchs pré-saison.
Je ne veux pas entendre parler de Johnny Manziel, je veux entendre parler de Josh McCown, le vieux routier qui est troisième équipe en 3 saisons, qui on va savoir s'il va pouvoir mener l'offensive des Browns à la terre promise. C'est au niveau du porteur de ballon qui est plus inquiétant chez les Browns. Mm-hmm. Et là, on a perdu Josh Gordon là, avec ses multiples démêlés au niveau de la consommation, ces problèmes de consommation.
Es-tu en train de me dire là, que tu penses que c'est Josh McCown qui va commencer la saison au poste de partant? Parce que moi, j'ai pris le temps de regarder Johnny Manziel jouer en fin de semaine et j'ai Josh McCown. Johnny Manziel a eu l'air d'un être humain grandi.
Ouais.
Bon dans la pochette protectrice, a contrôlé le caucus, des choses qui faisaient un petit peu moins dans les rangs collégiaux. Et Josh McCown, le vieux routier, comme tu dis, qui a peut-être en a fait un petit peu trop de route. 8e équipe, si je ne me trompe pas. 2 interceptions. ce week-end face aux Bills, alors que Johnny Manziel a été Johnny Football, mais pas seulement Johnny Football, et c'est ce que ça doit être. Un carrière qui comprend une attaque professionnelle et lorsqu'il en a besoin, peut être électrisant, mais le meilleur point que tu as fait, c'est que qui va capter ces passes-là? Dwayne Bowe, là. Je suis pas sûr qu'il y a encore de l'énergie.
J'aimais beaucoup ce receveur-là quand il est sorti du
college, mais... deux bonnes années avec les Chiefs.
Ouais.
Sinon, sinon, Andrew Hawkins, c'est pas un mauvais receveur, l'ancien des Alouettes, mais mm-hmm. c'est pas des receveurs de premier plan, surtout lorsqu'on a un jeune carrière. Attendez-vous à voir beaucoup, beaucoup de passes lancées aux ailiers insérés.
Leur force va se retrouver plutôt au niveau de la tertiaire. Mais je pense que ça va être insuffisant. Pour moi, ils risquent de terminer quand même dans les bas-fonds de la division.
Et avant de passer dans la division sud de l'Américaine, laissez-moi vous faire une petite prédiction de joueur recrue défensif par excellence. Danny Shelton, le gros plaqueur des Browns là, qui est partout sur le terrain depuis le début des matchs hors concours. Maintenant, on se transporte du côté de la division. Je ne sais pas si on peut l'appeler la division d'Andrew Luck ou la division de J.J. Watt. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a peut-être 2 des meilleurs candidats au titre de joueur par excellence de la NFL. À ce niveau-là, si on commence rapidement avec les Texans, Brian Hoyer vient d'être nommé partant. Est-ce qu'on peut espérer sortir de cette division-là et aller faire les éliminatoires?
Je crois que ça va être une bonne saison, peut-être au-dessus de 500, mais je ne les vois pas malheureusement là, se classer pour en tant que wild card dans la AFC.
Je crois qu'ils vont batailler avec les Colts, moi, pour avoir quand même une bonne saison. Je suis pas certain s'ils vont pas réussir à se tailler une place pour les séries. Leur défensive me fait peur. On pourrait dire, si j'étais un carrière des Colts, j'aurais peur de leur défensive.
Et une chose est certaine, ils vont probablement finir en haut du classement des équipes les plus divertissantes à Hard Knocks. Si vous n'avez pas encore regardé les épisodes de cette saison avec les Texans, c'est du bonbon. 3e épisode qui sort cette semaine. Brian Cushing, J.J. Watt, l'entraîneur-chef Bill O'Brien. Extrêmement divertissant. Et là, on se retourne du côté d'une équipe qui l'a eu facile depuis une couple d'années dans cette division-là. Les Colts, nés par un candidat au titre de joueur par excellence de la NFL, je l'ai mentionné, Andrew Luck, qui a des cibles, des outils, des armes, appelez ça comme vous voulez, de tout bord, tout côté. C'est l'année, à mon avis, des Colts, en tout cas le personnel d'entraîneur et la direction qui a vraiment voulu mettre toutes leurs chances de leur côté.
Tu parles des agents libres, ils sont allés chercher plusieurs agents libres. Frank Gore, Andre Johnson, Trent Cole, Vincent Brown, Kendall Langford, Nate Irving, Dwight Lowry et Todd Hermans. Tantôt, tu parlais d'une recrue défensif par excellence dans la NFL. Moi, je te fais une prédiction pour ma recrue offensive. Ce sera le receveur que les Colts ont sélectionné au dernier choix de repêchage, Philip Dorsett de l'Université du Miami.
En espérant qu'on garde des ballons gonflés cette année pour donner une chance aux Colts.
Finalement, de ce côté-là, on va parler rapidement des Jaguars et des Titans. Deux équipes qui ont de jeunes carrières. Blake Bortles a montré certains signes intéressants. Une bonne escouade aérienne, en tout le moins. Une escouade aérienne qui va grandir avec Bortles. Est-ce que Gus Bradley, l'entraîneur de troisième année, peut espérer plus de 3 victoires, qui était l'affiche de l'équipe en 2014?
Ça va tourner peut-être un petit peu d'amélioration au niveau des Jaguars. Je pense qu'autant eux que les Titans, là, ça sera peut-être quelques années de reconstruction. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ils ont des bons coachs en place, puis en espérant que les deux formations restent patients avec leurs jeunes, puis avec leurs coachs, pour peut-être être dans les prochaines années là, des équipes plus dominantes.
Et aussi les Titans qui ont repêché Marcus Mariota avec le deuxième choix au repêchage. De très bons signes à ce niveau-là dans les matchs hors concours. La plus grosse interrogation, à mon avis, c'est au poste de receveur. Des bons vétérans, Kendall Wright, Justin Hunter, Akeem Nicks, Harry Douglas aussi, l'ancien des Falcons. Mais est-ce que ce sont vraiment des joueurs d'exception, des joueurs qui peuvent changer l'issue d'un match, surtout pour enlever la pression du corps de première année? Je crois que pas.
Je pense que J.J. Watt va avoir beaucoup encore de plaisir cette année contre...
Comme vous dites, les gars, je pense que c'est deux équipes qui sont sur la bonne voie. Par contre, ils sont loin d'être compétitifs avec les deux autres équipes de cette division-là.
Donc, en somme, Indianapolis qui devrait avoir assez facilement leur laissez-passer en éliminatoire. Et si Brian Hoyer offre du football constant, peu d'erreurs, peut-être qu'on pourrait voir les Texans et leur grosse défense, et surtout J.J. Watt, un joueur d'une génération, se tailler une place en éliminatoire. Finalement, du côté du Pacifique, l'an passé, les Broncos de Denver ont eu beaucoup de succès avec 12 victoires, 4 défaites. Malheureusement, la blessure au quadriceps de Peyton Manning qui a ralenti l'équipe en fin de saison, et ça s'est arrêté dans les séries de division pour les Patriots, pour les Broncos plutôt. C'est une équipe vieillissante, mais qui est encore dans sa fenêtre optimale d'opportunité, à mon avis.
Ça termine très rapidement, par contre, parce qu'après Peyton Manning, ça va être la descente aux enfers, je crois.
Osweiler est tranquillement ce qui se prépare. Mais au niveau de la défensive, on a Von Miller, DeMarcus Ware, puis on rachète à ça notre premier joueur. Shane Ray. On peut dire que les plaqueurs offensifs là, vont avoir de toutes les couleurs. Et encore une tertiaire qui est très dominante. Donc c'est la première fois peut-être que Peyton Manning va pouvoir se fier à la fois sur son attaque au sol avec le nouveau coach Gary Kubiak et aussi une défensive dominante. Donc, ça sera à voir maintenant s'il peut appliquer là, la recette Tom Brady pour remporter un deuxième Super Bowl.
Kubiak a instauré des attaques de zone au sol partout où il est allé. Ça devrait être le cas encore une fois. On n'a plus le gros allié inséré, Julius Thomas, qui a signé un gros contrat avec Jacksonville. Mais l'an passé, Demaryius Thomas et Emmanuel Sanders, les deux, ont franchi la barre des 100 attrapés, plus de 1400 verges. Ça devrait être une attaque aérienne encore très dominante, malgré que Manning dit qu'il ne sent plus le bout de ses doigts depuis son opération dans le cou. Donc, il s'est fait vieillissant, mais il y a encore au moins une bonne saison de football, à mon avis.
Le seul problème, la ligne à l'attaque, donc beaucoup de nouveaux joueurs. Et là, il faut protéger Peyton Manning, ça sera la clé là, pour les Broncos. Sinon, ça risque d'être difficile.
Une équipe là, qui m'impressionne de plus en plus. En début de saison, elle n'était pas nécessairement intéressant. Mais là, je regarde l'alignement, je regarde le retour de quelques vétérans qui étaient blessés. Mais les Chiefs de Kansas City ont quelque chose, ont une petite saveur qui pourrait être intéressante. Derek Johnson n'a pas joué en 2014. Eric Berry qui revient de son cancer contre toute attente. Et surtout, Jeremy Maclin, qui pourrait finalement apporter une vraie cible de choix pour le corps Alex Smith.
Avec John Mulchard, ça va être deux personnes qui vont, avec de la vitesse, qui vont pouvoir créer des maux de tête aux équipes.
Ce qui me fait peur du côté des Chiefs, ça, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup entouré Maclin. Il est vraiment tout seul. On va voir Jason Avant, Albert Wilson et Chris Conley au poste de receveur. Ce n'est pas des gros choix, là.
Non, un joueur qui risque d'être impliqué beaucoup, comme il l'a été l'an passé, c'est le lien rapproché, Travis Kelce. Vraiment un joueur exceptionnel, faut le dire, puis qui cadre bien dans cette attaque-là. Les maraudeurs qui, souvent, doivent être dans la boîte défensive pour Jamal Charles. Alex Smith aussi, il ne faut pas l'oublier, est capable de courir, est capable d'étirer les jeux. Et un ailier rapproché peut faire toute la différence.
D'après moi, ils iront aussi loin qu'Alex Smith peut les amener. Ouais. Ça va être serré pour les séries
éliminatoires. Finalement, en fait, on regarde du côté de San Diego avant d'aller du côté d'Oakland. San Diego, qui, on a parlé beaucoup de la petite controverse avant le repêchage. Est-ce que les Chargers allaient signer Philip Rivers à long terme ou est-ce qu'on allait essayer de transiger pour repêcher Marcus Mariota? Finalement, on a opté pour le vétéran qui a joué du très bon football l'an passé, alors que les Chargers ont eu une fiche de 9 victoires, 7 défaites. Ça avait été peut-être un petit peu plus difficile défensivement et au sol. Et là, justement, on a investi avec le choix de première ronde en Melvin Gordon, porteur de ballon de Wisconsin qui ressemble étrangement à Jamal Charles, justement.
J'ai hâte de le voir jouer. Lui, je trouve que c'est un joueur qui va être très excitant dans la NFL. S'il peut avoir des petites brèches, là...
Puis il ne sera pas tout seul. Tu rajoutes Danny Woodhead, Donald Brown, beaucoup de Oliver aussi. Donc, ouais. Jacoby Jones. Moi, c'est une équipe de San Diego qui je pense qu'il va être impressionnante cette année. Il pourrait même finir premier. Philip Rivers, c'est un gars de plus en plus que j'apprécie. Il semble avoir ce leadership que tu as besoin de au poste de quart. Puis à la défensive, là, c'est pas. On a quand même beaucoup de joueurs dominants. Weddle, Lou Gehrig, Melvin Ingram. Gardez un œil sur ce joueur-là. Maintenant revient deuxième année à la suite d'une opération là, au ligament croisé antérieur. Je crois qu'il va faire des flamèches.
Finalement, du côté des Raiders d'Oakland, bon, l'équipe n'est pas à maturité encore, ne peut pas, à mon avis, prétendre à un poste en éliminatoire. Mais chose certaine, pour la première fois depuis plusieurs années, on a un noyau de jeunes joueurs intéressants. L'an passé, on a jeté notre dévolu sur le carrière Derek Carr, qui a montré des signes intéressants. À ce niveau-là au poste de corps arrière, Michael Rivera, bon allié inséré, allié rapproché plutôt, et là un joueur qui tire son épingle du jeu à sa première campagne NFL dans les matchs hors concours, ben, c'est le choix de première ronde, le receveur d'Alabama, Amari Cooper, qui devrait être utilisé à profusion.
Tu parlais d'enfants pauvres là, tantôt. Là. Eux, c'est probablement les bougons là, de cette section-là. Là. Ça n'a pas de bon sens à quel point ils ont de la misère, cette équipe-là, depuis des années, depuis le bon vieux Rich Gannon, je lance sur le côté. Ils ont de la misère à revenir compétitif. Beaucoup de changements d'entraîneurs, beaucoup de changements de joueurs. On dirait que dès que tu signes avec cette équipe-là, là, ta carrière se termine là, là.
Mais je crois que c'est le début des temps nouveaux pour les Raiders.
Une culture exceptionnelle.
Exactement, ça serait intéressant de les voir cette année. C'est sûr qu'on s'attend encore qu'ils finissent dans les bas-fonds, mais je pense qu'ils vont démontrer de belles choses. Au moins, ils ne seront plus la risée là, du command man comme à chaque année.
Ben, finalement, lorsqu'on décide, comme les bonnes équipes, comme les Patriots, comme les Packers, à utiliser le repêchage à bon escient, à laisser faire les vieux agents libres, on peut espérer des temps intéressants pour les Raiders d'Oakland pour l'instant, qui pourraient, par contre, avec les Chargers, avant longtemps se retrouver du côté de Los Angeles. C'est ce qui complète le tour d'horizon de l'Américaine. Division très compétitive. Encore une fois, on devrait voir les Patriots avoir du succès, mais surtout voir comment ils sortent de cette saga. Encore une fois, Peyton Manning, Andrew Luck, et j'en passe, à surveiller cette année dans la NFL du côté de l'Américain. Avant de conclure cette autre édition du podcast de la Zone Payante, petit retour sur les matchs de la première semaine d'activité au football collégial Division 1. Alors que Limoilou disputait sa première rencontre dans cette division, ont donné tout un défi aux Cougars de Champlain-Lenoxville qui l'ont tout de même emporté par la marque de 25 à 14. Victoire également facile du Notre-Dame de Foix 42 à 7 face à Édouard Montpetit. Lévis-Lauzon, énorme victoire, 69 à 30 face à FX Garneau. Surprise également du côté de Montmorency alors que les Nomades ont vaincu les Cheetahs de Vanier par 1 point, 28 à 17.
Mené par Eric Parr, qui est un ancien du Collège Notre-Dame.
Et finalement, alors qu'André Grasset, eux aussi, faisaient leur entrée dans les grandes ligues, ont tenu tête au Vieux-Montréal, ont passé bien près de remporter cette victoire, avaient une chance en fin de match de marquer un toucher victorieux. Malheureusement, l'expérience du Spartiate du Vieux-Montréal qui a prévalu et ont gagné la rencontre 21 à 16 face au Phoenix.
Il y aurait eu une controverse au niveau d'une passe interférence à la suite qu'un arbitre a repris son drapeau. Donc, à voir pour les prochaines semaines.
Ed Oculi nous en parlera la semaine prochaine, sans faute. Ce week-end, début des activités du côté de la Division 2 et de la Division 3. On fera un petit retour la semaine prochaine. Mais surtout, ne manquez pas notre édition spéciale Fantasy Football. Évidemment, plusieurs d'entre vous qui ont 1, 2, 3, quatre ligues certaines.
Si t'as quatre ligues, arrête ça. Là. T'as on trouve que c'est trop.
Et on fera vraiment un gros survol, différentes stratégies pour faire votre repêchage, les tendances à l'attaque, même du côté défensif, il y a certaines ligues qui mettent l'accent là-dessus. Donc, on aura toute une édition et surtout, on viendra sur le match hors concours du Rouge et Or qui affronte l'Université de British Columbia avant le fameux duel de la première semaine face aux Carabins. Hey, merci d'avoir passé la dernière semaine, merci la dernière avec vous.
Merci à tous.
Jonathan, Victor, c'était toujours un plaisir. À la semaine prochaine dans la zone payante.